l'Arche, la pyramide du Louvre, l'Opéra Bastille, le ministère des Finances. Bon, ça prend d'abord sur le plan urbanistique, c'est quelquefois contestable. En tous les cas, ce sont des grands monuments symboliques, si tu veux, qui marquent le pouvoir socialiste et à travers ça le pouvoir de Mitterrand. C'est vraiment, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Dieu, tu vois. Il a un petit peu le goût du grandiloquent, un peu à la Louis XIV, tu vois, Napoléon III, un peu, là. Il veut marquer ses septennats. Alors d'où le choix que l'on fait dans notre société actuelle sur les grands monuments. L'expression bien, bien typée ne me revient pas, mais. Et ce qui ouvre un petit peu la porte aux critiques, critiques au pluriel. Parce que, en même temps qu'on s'occupe de ces grands symboles, parce que c'est devenu vraiment des symboles, on laisse tomber un peu le côté, disons, social, populaire et la vie au quotidien, le vécu au quotidien. Parce que pendant ce temps-là, la région parisienne, Paris, s'agrandit. Les problèmes d'urbanisme et de densité sont repoussés à la troisième couronne dont on fait partie, en sacrifiant naturellement les terres agricoles, pratiquement les forêts, les choses comme ça. Bon, l'urbanisation anarchique continue de grignoter l'espace géographique et donc l'espace sensible. Et tout ça parce que il y a les grandes réalisations. Disons public, d'équipements publics, c'est certain, mais qui sont la signature de Mitterrand pour l'époque. Alors ça crée donc des équilibres, des pôles qui déséquilibrent, parce que ces équipements, comme par hasard, se trouvent soit intramuros, en tous les cas dans le centre de Paris, soit à l'ouest de Paris, voire l'Arche de la Défense et la Défense elle-même. Ça déséquilibre donc géographiquement et au point de vue densité l'urbanisme parisien. Sous prétexte naturellement de faire des grands projets, donc à caractère très marqué d'architecture contemporaine, pas de concours, mais de concours plus ou moins pipés, on fait appel à des architectes étrangers. Ça c'est pas mal, parce que c'est vrai que l'architecture, c'est un problème universel. Là, on retrouve Peille à la pyramide, on retrouve le Danois, l'architecte danois, dont je n'ai pas le nom, qui en est mort d'ailleurs, à l'Arche de la Défense. C'est qu'il est mort parce qu'on lui a tellement tarabiscoté son projet qu'il en a fait une crise cardiaque. Et ça a été récupéré, oui. Ça a été récupéré par les technocrates et la maison de Bouygues, pour te dire qu'il y a des enjeux aussi, des interférences dans le monde des affaires. C'est ça aussi qui est un petit peu surprenant. C'est que sous prétexte d'élever des symboles et à caractère public dans Paris, en même temps, on passe des grosses affaires aux gros cabinets, dont Bouygues et puis les autres, je ne sais plus lesquels. On leur passe Dumèze, on leur passe des gros chantiers. Un peu le monde des affaires. Derrière tout ça, il y a ça. Bon, alors, il est certain que ça a amené une création, une créativité architecturale assez. Ça a quand même mis le français moyen, parce qu'il réagit, il est informé, à grand renfort de publicité, il est informé de ses projets en amont, pendant la réalisation. Il y a toute une campagne de presse, d'information pour définir le pourquoi, le comment de ces grands projets. Et alors donc, il y a quand même enquête publique, plus ou moins, enfin, il y a l'homme de la rue, le quidam est quand même interrogé, je dis pas pris en compte, mais on fait un petit peu attention, on regarde un peu ses réactions, on les étudie. Et ce qui fait que le public français est enfin au courant de l'évolution de la créativité architecturale. Ça, c'est un point positif. Parce que naturellement, on utilise des techniques contemporaines de construction, on utilise des matériaux récents, le plastique, le verre, l'inox, l'aluminium, des choses comme ça. Alors que pour les gens, la plupart des gens, l'architecture, c'est Versailles, c'est l'Arc de Triomphe, tu vois, c'est tout ce qui est en pierre, c'est solide. Donc, on en revient un peu à ces notions de patrimoine. bon, ça rassure les gens. Tandis que ce qu'on appelle le high-tech américain ou le high-tech maintenant français, des technologies de construction mises en œuvre très sophistiquées, comme l'IMA, par exemple, l'IMA fait partie aussi des grands projets de Mitran.
L'IMA, qu'est-ce que c'est ?
L'IMA, c'est l'Institut du monde arabe. Toujours situé en plein cœur de Paris, front de Seine, etc.
Lui, c'est un architecte français, non ?
Oui, c'est Nouvel qui est vraiment l'architecte actuellement qui est porté au nu. C'est chez Metoff qui a fait le ministère des Finances, qui avance sur la Seine, qui est pas mal, enfin je n'ai pas encore visité, mais je veux dire, tout ça, ça fait partie des monuments des projets de Mitran.
Puis un projet de grande bibliothèque aussi.
Alors, il y a le projet de la grande bibliothèque, mais ça, c'est encore pendant 3 ans, c'est pas encore sorti. Ce qui va remplacer la Bibliothèque nationale et toutes les modifications maintenant, l'informatisation et tout. Bon, c'est vraiment des équipements importants. Hein. Mais ça, tout ça, c'est décidé quand même dans les très hautes sphères et parmi une élite à la fois administrative, technocratique, bancaire, le monde des affaires, etc. Et l'architecte, à ce moment-là, se trouve être le servant de ces grands projets. On tient compte quand même de ses idées, de sa conception, mais il est quand même obligé de passer par les fourches caudines de cette haute administration politique et administrative. Tu vois, donc on assiste à un phénomène de grandiloquence, de marque du pouvoir, ça c'est très net, c'est royal, c'est monarchiste, tu vois, c'est le sentiment que l'homme de la rue un peu averti qu'il a, quoi. C'est vraiment... Alors, bon, on peut se poser la question du fonctionnalisme de tous ces bâtiments, et il y a un problème qu'il faut soulever tout de suite, ça déjà Beaubourg en est victime, qui faisait partie, mais en fait, Mitran a voulu suivre Pompidou, tu vois, il a voulu prendre le relais, étant donné qu'il y a le clivage droite-gauche, toujours, qui joue là-dedans, bon, ben moi, je vais faire mieux que la droite, c'est un peu pour ça aussi que c'est lancé. Et alors, c'est le problème du fonctionnement au quotidien et de la maintenance. La maintenance, parce que ce sont des matériaux modernes, entre guillemets, mais qui demande énormément d'entretien, et là on s'aperçoit que socialement et professionnellement, il n'y a pas les compétences, les structures capables d'entretenir. Alors comme ce sont des bâtiments qui engrangent, enfin je veux dire, qui sont piétinés par des masses, des flots de visiteurs, qu'ils soient français ou étrangers, c'est dingue, il y a vraiment des problèmes de ce qu'on appelle la maintenance, l'entretien des bâtiments. Très souvent, par exemple, le centre de Pompidou, Beaubourg, est en grève et est obligé de fermer parce que les balayeurs font grève. Tu vois, les répercussions, tu as un monument qui a une réputation internationale, qui fait figure de phare, tu vois, qui est un phare de civilisation, de société, et puis il y a un grain de sable qui le coince.
Enfin, ça fonctionne quand même au niveau du public, parce que Beaubourg, c'est un succès.
Oui, mais alors, c'est un public qui ne fait que passer, et là, il y aurait beaucoup à dire sur le contact des problèmes et de la culture artistique avec la masse de... Il y a tourisme et culture, si tu veux, les deux, moi, je suis très méfiant. Je ne sais pas si ça s'accroche très bien.
Pourquoi ?
Ben parce que t'as des hordes de Japonais, d'Allemands, etc. Je prends Beaubourg, qui ne font que grimper en espalier, les escaliers, qui un peu comme une fourmilière, tu vois. Alors, quelle est l'assimilation, disons, culturelle, un peu forte, au niveau... comme ça, d'un public massif, j'y crois pas. Tu sais très bien qu'on regarde une œuvre d'art, qu'elle soit sculpturale ou picturale, dans une certaine intimité. Et c'est vrai, j'ai lu, j'ai entendu parler que, et c'est ma position, que cette culture de masse est quand même remise en cause. Et que finalement, on découvre bien mieux, d'une façon un peu hasardeuse, une belle toile d'un primitif ou même contemporaine, dans un musée par hasard de province. Je prends le musée de Pontoise, ou celui de Calais, ou celui d'Avignon, en dehors du festival, où tu vois des choses très calmement, aussi importantes qu'à Beaubourg ou au Louvre.
Mais là, les gens n'y vont pas.
Ils y vont, mais c'est un public qui est plus trié, c'est quand même pas la horde. Et ça, c'est incompatible avec disons, la méditation artistique. Il n'y a pas de connaissance de l'art sans méditation personnelle, sans position. Une œuvre d'art, historiquement et encore maintenant, ne peut exister ou avoir de raison d'être que s'il y a un dialogue avec un spectateur ou quelques spectateurs. Et ça ne peut se faire que dans une certaine intimité. Moi, je reste persuadé que tu ne peux pas voir un Vermeer, je n'irai pas voir Van Gogh, par exemple, avec le centenaire Amsterdam. Je n'irai pas parce que c'est vraiment des trains de touristes qui vont voir un peu. C'est pas un snobisme parce que c'est tellement populaire, mais c'est un point de passage obligé. Bon, c'est une chose qui doit faire partie de l'année 90. Voilà. Mais j'aimerais bien interroger les gens qui en sortent 8 jours après, leur demander. À part les rengaines qui passent en Paris Match, Le Point ou dans la presse, tu vois, ou la télévision, les rengaines qu'on va susurrer. Et disons, c'est une déviation, à mon sens, une déviation de la chose artistique. C'est pas comme ça qu'il faut ressentir. Donc, ces grands monuments actuels, qui sont quand même, en plus, qui sont issus de mouvements artistiques, même picturaux, tu vois, on ne peut pas s'empêcher de trouver les origines de l'Arche de la Défense, voire même de la pyramide du Louvre, sans penser au mouvement bon, du style en lande, à toute la démarche d'un Modrian, et par exemple du Bauhaus et de Gropius, tu vois, tout ça, c'est né quand même dans les années 1910, 1920, 1930. Cette espèce de l'architecture qui nous tombe dessus maintenant, cette architecture sacralisée et sacralisante, a ses origines dans des groupuscules comme ça qui ont bien pensé l'époque, disons, industrielle et post-industrielle. Et ça, là, c'est intéressant sur le plan artistique parce qu'il n'y a pas, en fait, dans la créativité, il n'y a pas de hiérarchie, si tu veux, une peinture, une bonne peinture, une bonne sculpture, une bonne architecture, ont la même résonance, ont la même, disons, le même poids sur l'opinion publique. C'est pas une question de dimension, c'est pas une question de coût même. Pour la formation ou l'éveil culturel, artistique des gens, une peinture doit avoir le même poids, le même impact qu'une architecture. C'est pour ça que je sais pas que je mélange, je ne fais pas de confusion, mais la production architecturale et la production picturale, pour moi, relèvent des mêmes origines et de la même problématique. Et on peut juger une œuvre architecturale comme on juge une sculpture d'abord et une peinture. On a les mêmes critères, on applique les mêmes critères, aussi bien métaphysiques que fonctionnels. Alors ça, il faut rendre grâce quand même. Bon, je ne sais pas si on doit ça à Mitran, ces septennats successifs, mais je pense en fait que la maturité arrivait à son comble, si tu veux arriver vraiment, le fruit mûr doit tomber. Et donc, à travers ces monuments architecturaux, l'art passe quand même dans la rue. Avec ces contradictions que je disais tout à l'heure, que je levais tout à l'heure, de subitement une massification d'un public qu'on forme, disons, avec le phénomène médiatique, le fameux phénomène médiatique qui fait que tout le monde est au courant de tout ça, aussi bien dans les problèmes que ça pose, que dans la rentabilité même. Je ne parle pas du côté financier, les milliards qui passent là-dedans, et heureusement. Enfin, il y a des équipes d'architectes, de constructeurs, d'ingénieurs qui sont bien rémunérés. Et puis ça fait marcher, alors ça résout le chômage. C'est vrai que, comme les grands bâtiments, aussi bien bon, comme les cathédrales, à l'époque gothique, ça faisait vivre les gens. Il y avait toute une population. Le travail, les zones d'habitation, les zones vertes, etc. Bon, qui dit urbanisme dit harmonisation des différents paramètres qui constituent une ville. Bon, c'est ça, hein, l'urbanisme.
Et tu veux dire que les grands chantiers ont été réalisés au détriment d'un urbanisme plus quotidien,
voilà.
De la vie
voilà.
quotidienne.
D'un urbanisme social, si tu veux. Et dans le présent, mais surtout pour l'avenir, c'est-à-dire qu'on compromet là-dessus, on compromet l'avenir, parce qu'à ce moment-là, je le disais tout à l'heure, pendant qu'on construit ces grands chantiers, là, que ces grands chantiers se mettent en route, on délaisse et on laisse l'anarchie se faire sur le plan urbanistique. Et donc, on assiste, le mot est prononcé un peu par les spécialistes et les gens un petit peu plus sensibles, on assiste au cancer urbain, si tu veux. Au moins en région parisienne, mais c'est également vrai pour les grandes métropoles régionales, type Marseille, Bordeaux, Lyon, ça pose vraiment des problèmes énormes, et même des problèmes humains, c'est-à-dire, pendant qu'on construit des grands monuments, il y a encore des gens, et l'abbé Pierre, qui pourtant est vieux, est encore en train de repartir sur le trottoir, parce qu'il y a des gens sans logis, quoi. Non seulement sans logis décent, mais sans logis tout court. Bon, le problème n'a pas été résolu. Bon, sans compter l'erreur à la fois esthétique et fonctionnelle d'un soi-disant fonctionnalisme, justement, des grandes barres, des fameuses grandes barres, des collectifs immenses qui ont été implantés dans les régions suburbaines, c'est-à-dire en dehors des fortifications, dans Paris et ailleurs. Bon, tout ça est remis en cause, on ne peut pas parler d'urbanisme, enfin si c'est de l'urbanisme, mais toutes ces grandes barres, tous ces grands collectifs sont remis en cause, et bon, on cherche à les détruire. C'est-à-dire carrément, on met de la dynamite, oui, à la Courneuve, au 4000, dans la cité 4000, là, il y a 2 ans, on a détruit une grande barre, tu vois. Alors naturellement, la presse arrive, la télévision arrive, et on montre qu'on est en train de résoudre le problème d'une façon radicale, on détruit une barre, mais on n'en détruit pas 2 ni 10. Alors qu'il faudrait tout détruire, refaire table rase et repenser le problème. Mais je pense que ça ne se fera jamais. Tellement les erreurs ont été accumulées par manque de comment on peut appeler ça, d'articulation entre les différents domaines. J'ai toujours connu des grands spécialistes. On parlait des sociologues, des économistes, des urbanistes, des architectes, voire même des artistes. Chacun séparément résolve le problème, mais l'articulation des connaissances et des savoir-faire ne s'est pas faite. Et ce qui fait que, par exemple, quelqu'un qui, admirant Le Corbusier avec ses cités radieuses, ses unités d'habitation, a transformé ça en barre de, je ne sais pas moi, de 1500, 1800 logements, et ça, c'est pas viable. Ou tout au moins les populations, être logé là-dedans n'était pas prête à avoir ce style de vie hyper collectiviste, etc. Les mentalités n'étaient pas prêtes. D'où l'échec. Et ça n'a même pas résorbé, la pénurie des terrains dans les zones urbaines, puisque ça n'a pas empêché la spéculation qui, comme tu sais, dans les centres-villes et autour des villes, a fait un bond par 1000, 10 000, 100 000. C'est devenu dingue. Et là, alors, on a une conséquence immédiate, c'est que le petit peuple, il faut bien en parler parce qu'il existe toujours, il est rejeté de plus en plus loin du cœur des villes.
À ton avis, il y a eu une dégradation de la qualité de la vie au cours des 15 dernières années.
Complète, voilà. Complète, et c'est paradoxal dans une ère socialiste. Et on s'aperçoit que les têtes du socialisme, qui sont maintenant ministres, etc., n'avaient pas mesuré l'importance du problème, ou n'étaient pas au courant, parce que ce sont des instituteurs arrivés au pouvoir. Ils sont sympathiques, les instituteurs, non, mais ce sont des gens d'éducation nationale, les Jospin, je sais pas, ou alors c'est une petite élite intellectuelle, type Fabius, Lang, qui sont arrivés comme ça au pouvoir par camaraderie. C'est ça, c'est l'équipe socialiste. On ne dit pas le mal, les autres en font autant, mais c'est le clan socialiste. Et on s'aperçoit, à part peut-être Lang et encore, qui s'occupe beaucoup plus de la danse, d'où l'opéra de la Bastille, plutôt du théâtre, parce que c'est un ancien animateur de Nancy, il s'occupe plus. de la théâtralité, des problèmes dans leur résolution que d'une espèce de, disons, pragmatisme, c'est pas pour rien, comme la culture joue toujours dans la culture individuelle joue dans la décision des gens. Et la danse, le théâtre, bon, on le vend dans le don, on les moyens. Les moyens, grâce à Lang et à sa sensibilité pour le théâtre et la danse. J'estime, et ça c'est un point de vue, à ce sujet, il y a un architecte viennois autrichien que j'ai lu il y a un certain nombre d'années, mais dont le nom va m'échapper comme par hasard, mais c'est toujours comme ça, qui dénonçait déjà le problème, que on a autre chose à faire que de construire des opéras dans notre société actuelle de grand nombre, et avec les besoins que ça comporte, au point de vue infrastructure, au point de vue qualité de logement, et les équilibres entre construction et naturel, tu vois, et les espaces naturels. Bon, Camille Ossite, voilà, le nom de l'architecte, essaie de te renseigner là-dessus. C'était un petit peu un devin déjà d'un fonctionnalisme, mais au beau sens du terme, que les choix au niveau architectural et urbanistique devaient être faits en priorité au niveau du quotidien, et disons, au niveau de l'agencement des villes, quoi. Et ça, c'est dans les années 1900, tu vois, voire 1890. Bon, moi, je trouve que tout en se référant à une idéologie socialiste, c'est notre grande déception, et je suis placé pour le savoir puisque je suis dans l'enseignement de l'architecture, je vois bien comment ils nous traitent. Tu vois. On est traité vraiment comme le clochard d'une fête, tu vois, où tout le monde est invité, bon, on accepte le pauvre, qui vienne ramasser les miettes, quoi, qui vienne. C'est ça. Hein. Mais je suis pas le seul, alors là, j'ai des tonnes de rapports, si tu veux, qui dénoncent ça. Il y a quelqu'un qui est pas mal et qui est pourtant dans le giron socialiste, voire même qui est très lié à Mitran, c'est Castro. Roland Castro qui dit, si on ne fait rien d'ici l'an 2000, bon, c'est la révolution. Et ça, c'est ce que j'ai toujours dit. Ça a toujours été ma position en tant qu'artiste et en tant que pédagogue et en tant qu'intervenant. Ça a toujours été, si on ne fait rien de valable et de fondamental dans ces domaines-là... C'est heureusement les gens ne sont pas encore, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, j'ai été optimiste, mais ne sont pas encore informés totalement de la gravité du problème.
Bah, c'est la révolution, pourquoi ?
C'est la révolution parce qu'ils auront des conditions de travail, des conditions de logement et des conditions de vie sociale et collective qui ne fonctionnent pas, quoi. Ça ne fonctionne pas du tout. Voilà. C'est pas supportable. Ils n'en sont pas encore à attraper de l'urticaire, heureusement. Mais ils sont de plus en plus éreintés, de plus en plus fatigués pour aller de leur domicile à leur lieu de travail et dans des conditions de transport. Là aussi, alors il y a un état dans l'état qui ne fait pas son boulot, c'est la SNCF. Bon, comme les grands chantiers du président, on fait une grande publicité sur le TGV. Bon, mais à quoi sert, on pourrait se poser la question, est-ce que vraiment le TGV est normal? C'est pas parce que tu vas mettre 2 heures de moins pour aller à Marseille, qu'est-ce que ça va résoudre comme problème? C'est un peu le problème du transport aérien, au moins européen, quoi. Ça ne résout pas de problème, sauf que ça utilise, et ça c'est bien, des technologies d'avant-garde, ça fait marcher des technologies de pointe. Mais, là aussi, bon, il y a une frange de la société qui en profite, et encore, hein, combien de fois les cadres sont mécontents parce que Air Inter prend 2 heures de retard, tu commences sur un voyage, bon, quelqu'un qui en a fait rendez-vous à Grenoble, prend l'avion, mais l'avion a 2 heures de retard, alors que le voyage dure 1 heure, tu commences à... Si, mais ça se passe comme ça. Et j'ai lu des articles où les mecs s'arrachent les cheveux, Bon, ils s'arrachent les cheveux, leur colère passe, est-ce qu'elle se tasse dans un coin de leur conscience, aussi bien individuelle que collective, je ne sais pas, mais en tous les cas, il n'y a pas encore, le couvert de la marmite ne saute pas. Moi, je m'étonne.
Il y a des tensions sociales, ouais. On entend suffisamment parler des immigrés.
Bon, mais ça, c'est encore un autre problème. C'est un autre problème.
C'est lié, non ?
Mais il y a quand même encore des grèves, des transports, il y a encore des grèves des postes, il y a encore des. Tu vois, l'ère socialiste n'a pas épongé ce que nous a laissé, et moi je le dis franchement, le gaullisme, Et ce que nous a laissé après ça, la prégaullisme, la droite.
Giscard.
Oui, la période Giscard, Chirac, etc. Ils n'ont pas résolu le problème, et le plus grave, c'est qu'ils n'avaient pas conscience du problème. Bon, depuis que Chirac est maire de Paris, il a un peu plus ses grands pieds dans ces problèmes-là du fonctionnement d'une ville. Tu vois. Alors, il prend des décisions draconiennes, sévères, il prend même des décisions impopulaires, mais le problème n'est pas résolu d'une façon fondamentale. Bon, alors, là-dessus, on peut parler, le problème des immigrés se pose, non pas en termes, je pense pas en termes de racisme profond, je crois que là on enfle un petit peu la chose, parce que je vis suffisamment au quotidien ce problème-là, et puis je discute avec les gens. Mais il est certain que quand un train de banlieue est bondé, où tu ne trouves pas, en allant au boulot ou en revenant du boulot, a fortiori quand tu es fatigué, tu ne trouves pas de place assise, et que tu t'aperçois qu'à ce moment-là, il y a plus d'un tiers de gens de couleur, c'est facile de riper, de déborder vers certaines réactions racistes. Tu comprends Et même celui qui a une conscience de tous ces problèmes-là, il a son instinct, le pousse vers, en disant « Merde, s'il y avait moins d'émigrés, il y aurait peut-être un petit peu plus de place dans les trains de banlieue, dans les transports en commun. » C'est un raisonnement simpliste, mais et finalement qui interpelle la notion du problème beaucoup plus loin. Qui a fait venir les émigrés, dans n'importe quelle condition d'ailleurs, sans aucune condition d'accueil, sans aucune condition de financement ou autre, sans aucune structure, disons, d'embauche sérieuse, etc. Pendant combien de temps, je veux dire, les émigrés ont été sous-payés, voire même sans sécurité sociale, sans protection sociale. Bon, ça c'est les belles années, giscardiennes et autres. Bon, et donc on a alléché ces gens-là. Bon, là il y a un autre problème qui se pose. Pourquoi eux-mêmes ne trouvent pas des emplois dans leur propre pays qui, comme on dit, est en voie de développement, on peut se poser la question, tu vois. Et là, il y a des études qui sont faites sur le Maghreb et sur l'Afrique, comme quoi ils sont en train de rater leur sortie du colonialisme. Ils sont encore dans un post-colonialisme. La preuve, c'est que la plupart des sociétés françaises ont toujours un pied, un gros pied, un grand pied dans ces ex-colonies, quoi, sous forme de bureaux d'études, d'antennes bancaires, de trucs d'assurance, que sais-je, tu comprends, et d'exploitation minière, et d'exploitation de sous-sol, et voire même de l'exploitation du bois exotique. Donc, ils sont encore dans une ère colonialiste, et les élites ne réagissent pas suffisamment. Ce qui provoque une pénurie d'embauche chez eux, et c'est très facile, ou officieusement pour la population relativement courageuse qui essaie de s'infiltrer à travers ces réseaux d'immigration ou d'émigration, d'arriver en effet dans les pays riches, tels que, enfin, entre guillemets riches, comme la France, l'Allemagne qui contrôle quand même ses émigrés, l'Angleterre avec un statut particulier, mais il y a très peu d'émigrés finalement en Italie, pas beaucoup en Espagne, je crois. Les problèmes d'immigration sont surtout portés sur la France, un peu la Hollande et la Belgique et encore. Et si tu veux, il y a un problème qui se pose là aussi au point de vue équilibre social et qui passe par l'équilibre urbain ici, c'est que rien n'est prévu pour leur mode de vie à eux, parce qu'ils arrivent avec leurs mœurs, leur façon de se nourrir, leur nutrition, leur musique, leur culture, et rien n'est prévu. On les loge dans ce que je parlais tout à l'heure, les gens qui n'étaient pas formés à une vie collective, regroupés dans ces espèces d'immenses bars et immeubles dans les banlieues, petit à petit s'aperçoivent qu'ils ne sont pas faits pour vivre là-dedans, qu'ils n'y retrouvent pas leur compte, ni individuel, ni collectif. Et non de cesse que d'aller habiter le pavillon en banlieue, mais dans une banlieue encore plus. Et ces bâtiments maintenant sont occupés par les immigrés. dans des conditions encore plus épouvantables. Et bon, ils n'ont qu'un avantage, peut-être, c'est que c'est toujours à loyer quand même très bon marché. C'est quand même des collectifs qui ont été construits pour des bas salaires. Et maintenant, c'est occupé par des colonies entières de Maghrébins, d'Africains, de Pakistanais, etc. Tu vois. Et du coup, on parle de ghetto. C'est vrai que ces immeubles se sont vidés d'une population européenne, française, et maintenant, tu as des banlieues entières peuplées de gens d'origine africaine ou autre. Et alors on crie au ghetto, et le ghetto étant, disons, le phénomène absolument pas concerté sur le plan social et urbanistique. Voir les ghettos, bon, que certains régimes ont constitué pour les juifs et autres, tu comprends, pour les gitans, etc. Tu vois, on en arrive toujours dans une ère socialiste à un résultat tout à fait paradoxal à l'idéologie socialiste. Là, c'est le comble. C'est vraiment le comble. Alors, quoi faire? Moi, je reste persuadé que c'est pas en construisant des bureaux à la Défense. Maintenant, dans les bureaux, on installe, on construit beaucoup trop de mètres carrés de bureaux. Et là aussi, ça a des répercussions sur le... comment on peut appeler ça, sur la constitution du tissu social. C'est que Paris va devenir une ville de tertiaire, uniquement de col blanc, tu vois, de supercadre, de cadre, etc. Donc, prolifération d'un travail plus ou moins utile, qui utilise l'outil de production et qui utilise la consommation de masse, tu vois. Donc les immigrés sont bien catalogués à la fois dans leurs immeubles collectifs, sont bien catalogués dans leurs postes de travail, et qui en profitent, cette espèce de population tertiaire qui occupe maintenant les centres-villes. Donc avec tout ce que ça comporte comme abstraction et déshumanisation, si tu veux. Le tertiaire, le cadre, ayant à peu près systématiquement sa résidence secondaire, ou ayant des loisirs tout à fait sélectifs, voire prolifération, pour d'autres raisons d'ailleurs, de spéculation immobilière, de golf. On construit je ne sais plus combien de golf, non seulement en région parisienne, mais partout. A priori, comme ça, dévisu, ça crée un paysage. Bon, c'est la fabrication d'un paysage, mais on sait pourquoi. C'est pour qu'ensuite, les promoteurs, les financiers, profitent d'un argument de site, un argument prestigieux pour à nouveau construire des banlieues résidentielles, enfin des résidences principales et secondaires, avec l'argument de dire vous êtes à 3 minutes du golfe ou vous donnez sur le golfe. Étant donné que les fronts de mer, voire les massifs montagneux sont pratiquement saturés, là aussi à cause d'un tourisme et d'une utilisation des loisirs un peu... disons correspondant, enfin un peu mercantile, on assiste maintenant dans les zones périurbaines, là où il reste encore un peu de nature, au coût classique, on fabrique un golf, un paysage golf, et puis s'installe autour, aussi d'une façon anarchique, au nom de la promotion immobilière, on assiste à une banlieue résidentielle, luxueuse, mais une banlieue quand même. Et ça, c'est le laisser-faire. C'est le laisser-faire de l'ère socialiste. Je ne dis pas du socialisme, mais de l'ère socialiste. Tu vois. Alors, ça implique sur le plan artistique, ça implique l'expansion du mauvais goût, d'un goût néo-normand, néo-colonial. On voit des villas résidentielles qui coûtent la peau des fesses. Construit en style californien, tu vois, avec le petit fronton ou Floride, tu vois, le petit fronton devant, mais tout ça en carton-pâte presque, tu vois, en simili, simili-pierre, simili... Non, mais c'est dingue, hein. On arrive là à une formulation d'un vocabulaire qu'on peut même plus parler d'architecture, c'est du bric-à-brac. Voilà, c'est Disneyland, qui est un des facteurs également négatifs, contrairement à ce qu'on pense, de la région parisienne, avec les problèmes que ça pose, là aussi, au point de vue des ordres urbanistiques, c'est dingue. Alors, il s'est créé des associations de défense, qui étaient défense sur le massacre d'un site, défense sur la qualité d'une terre agraire qui n'avait pas son pareil, enfin, tu vois, non, mais... bien sûr, il y a trop, on produit trop, parce qu'on utilise trop d'engrais, là on tombe dans un problème d'écologie. On produit trop parce qu'on met trop d'engrais, on sature la terre d'engrais. Alors du coup, il y a, tu as dû en entendre parler, des friches agricoles. On va interdire aux agriculteurs, ou surtout aux petits agriculteurs naturellement, qui forment le paysage de la campagne française, on va leur interdire de cultiver, d'élever. Je ne sais pas ce qu'on en fera, on prétend qu'on va en faire les jardiniers du paysage français. Tu parles, eux se refusent naturellement de jouer ce rôle-là, mais donc on va leur interdire, on va créer des friches agricoles. C'est-à-dire on ne cultivera pas, la terre, paraît-il, va se reposer, moi je veux bien. La ronce, les orties, etc. vont gagner le terrain. Mais ça fait l'opportunité d'implantation de parcs de loisirs à la mode américaine. Alors ça, c'est encore un autre phénomène. Et qui véhicule, naturellement, toute une culture dont on pourrait très bien se passer. La culture dessin animé Disneyland, Walt Disney, bon, c'est bien de temps en temps, Blanche-Neige et les Sept Nains, mais quand ça prend des proportions, je ne sais pas quel est le nombre d'hectares de Disneyland, mais c'est quelque chose de fabuleux. Avec tous les abords, tous les à côté que ça entraîne. Alors là, il y a une levée de boucliers, tu ne peux pas t'imaginer. Et comme par hasard, Disneyland a été promu, financé avec la carte des Américains, mais qui les a fait venir, les Américains? C'est un chef de cabinet de, je ne sais plus si c'est de Bérégovoy ou peut-être même d'un ministre chiracien, tu vois. Il est passé par le stade ministériel, donc politique et ministériel, donc aux commandes de l'État. Il est retombé dans le secteur privé, et puis il a magouillé l'arrivée de Disneyland. Tu vois la combinaison. Bon, et ça, c'est anti-culture, donc anti-artistique sur le plan national. Je ne fais pas de nationalisme, mais on a encore quelques réactions culturelles et artistiques qui peuvent être prises en compte. On n'est pas obligé d'aller chercher des grandes machines comme tel ou tel trust américain ou anglo-saxon. Voilà de quoi se compose finalement le paysage. Et encore, il y aurait beaucoup de détails à apporter. Hein. En quoi se compose le paysage parisien et francilien, comme on dit maintenant. Et qui regroupe quand même, bon an mal an, bon j'exagère peut-être le chiffre, mais 15 millions d'habitants, quoi, tu vois. Je veux dire, la grande couronne de Paris, toute la fraction parisienne, ça représente une masse de 15 millions d'habitants. Et les problèmes ne sont pas raisonnés en termes de millions d'habitants, tu vois.
Merci.
Mais encore, attends, on peut trouver d'autres...
Oui, je crois que je vais arriver à la fin de ma...
On est placé pour le. On peut quand même ajouter que, à travers cette promotion de l'architecture monumentale, il y a des créateurs, voire même au niveau pictural et sculptural, qui passent quand même, qui sont quand même, dont l'activité créatrice est prise en compte. Pour citer d'exemples très précis. Bon, et par rapport à ça. Il y a une relation de cause à effet, c'est-à-dire à travers ces monuments, ils ont quand même un impact dans les centres-villes, et il y a naturellement la spéculation immobilière, mais ça lève un peu le niveau des quartiers environnants. Et ça lève également le niveau social des populations. Comme je disais tout à l'heure, c'est des cadres, des super cadres comme ça qui occupent maintenant les centres-villes, ou par les dans les immeubles de bureaux, ou quelquefois même certains habitent Paris en ayant les moyens, d'énormes moyens. Alors du coup, il y a un commerce extraordinaire de galeries d'art qui prend de l'expansion. Par exemple, on a implanté l'Opéra Bastille. Le quartier de la Bastille qui était vraiment rien du tout, oui. Sauf qu'il y avait des cireurs de meubles, des vernisseurs, des marchands de bronze de meubles de mauvais goût. Maintenant, étant donné que cette industrie artisanale ou semi-artisanale périclite, les ateliers se libèrent, il y a création de lofts, disons plus ou moins occupés ou achetés ou loués par des créateurs, des artistes. Et maintenant, le département, le débordement, disons, de cette population marginale artistique, en grande partie se situe autour de la Bastille, grâce à l'Opéra Bastille. Ceux qui avaient du flair ont acheté ou loué bien avant, occupé les lieux bien avant l'Opéra Bastille, mais alors maintenant, c'est le grand, disons, c'est le tapis persan, quoi. C'est brodé vraiment d'ateliers d'artistes et du coup du commerce de l'art, des galeries. Bon, alors ça peut être considéré comme positif, comme ça, on peut aussi voir une sorte de, là aussi, un ghetto artistique. Voilà. Un peu, ça montre bien l'articulation, la combinaison, tu vois, d'une décision politique au sommet et de ce qui se passe après. Les gens se débrouillent et dans le quartier, enfin, le quartier est en pleine révolution. Alors, sur le plan, disons, pictural, mais là aussi à mettre entre guillemets, il y a en effet une production, il y a une prolifération d'artistes. Pour la simple raison, et ça c'est un point de vue tout à fait personnel, c'est que il y a des petits malins qui n'ont conservé des mouvements artistiques modernes. Bon, je ne vais pas faire toute la généalogie des courants artistiques du début du siècle, mais qui n'ont repris et qui n'ont, comment dirais-je, qui n'exploitent que le côté scandaleux. Parce que dans toute œuvre d'art, il y a, disons, un élément novateur, et cet élément novateur, il est, bon, dans une autre façon de voir l'espace, c'est le cubisme, il est dans une autre façon d'installer la lumière dans une œuvre d'art. Bon, c'est le luminisme, le pointillisme, je ne sais pas, moi, tu vois, il y a différents... Bon. Donc ça bouscule un petit peu les données classiques de la production picturale depuis l'art des cavernes. Mais il y a eu aussi des gens qui ont utilisé, pour faire ce pas en avant, pour avoir cet esprit novateur, qui ont utilisé le côté un peu scandaleux. Le côté anti-bourgeois, disons, anti-social et anti-bourgeois. Bon, à mon sens, un des plus grands, c'est un des plus, disons, reconnaissables, c'est Duchamp, là, Marcel Duchamp, qui, bon, transforme un pic-bouteille en œuvre d'art. Bon, c'est tout le dadaïsme et tout et puis alors le surréalisme, mais qui avait un mouvement qui a pris naissance dans la littérature, c'est encore autre chose, et la philosophie. Bon, alors, de là, après ça, bon, le temps s'écoule, ça s'est toujours un petit peu fait, là, comment dirais-je, ce côté pied de nez, si tu veux, on tire la langue à la société en créant une œuvre d'art pour vouloir être nouveau, pour vouloir scandaliser et par là être nouveau. Bon, ça s'est toujours un petit peu utilisé, des gens très bien comme Max Ernst l'ont fait, bon, des gens, alors l'épigone maximum, c'est Dali qui, partant du surréalisme, est arrivé à une espèce de bricolage, tu vois, effréné et commercial, juteux. Mais ça continue, c'est-à-dire que des gens sans savoir-faire et sans connaissance précise de l'objectif d'une œuvre d'art dans la société n'utilisent que cette partie scandalisante de l'art.
Spectacle.
Alors, spectaculaire, c'est vrai. Bon, avec le phénomène médiatique maintenant, c'est la moindre chose est enflée. Et donc, on met plein la vue au public et au peuple. Et alors, c'est ce qui donne un peu cette prolifération des ready-made et des installations. C'est-à-dire, tu prends une boîte de Coca-Cola, vide de préférence, bon, tu installes un cendrier avec des mégots dedans, tu mets un petit napperon kitsch complètement, une petite bougie dans un bougeoir également kitsch, tu vois, tout ce que tu as pu trouver de ringard au marché aux puces, tu installes ça sur des petits tréteaux avec un tissu, un velours de préférence rouge ou noir, et puis c'est considéré comme une installation où tu prends des vieux outils, voire même des poubelles, tu vois, voilà. Alors moi j'estime que bon, ça peut être quelquefois intéressant, encore que pour moi c'est pas nouveau, qui suis un petit peu cultivé sur le plan artistique, mais c'est pas nouveau. Mais c'est une facilité, si tu veux. Et alors, le public qui lui, dont les ancêtres ont laissé passer les tournesols de Van Gogh, qu'on échangeait pour une bouchée de pain, ou les Cézannes, dont je connais quelqu'un justement dans la région d'Est qui utilise un Cézanne comme pare-feu pour empêcher que les braises aillent sur le tapis. Bon, qui ont laissé passer cette occasion, alors que maintenant un Cézanne et un Van Gogh, dans leur référence financière, etc., atteint des sommets, plus que n'importe quel autre objet engendré par l'humanité, sont désorientés, ils ne veulent plus laisser passer, je veux dire, le mouvement artistique contemporain. Alors, il y a, appuyé, je te dis, par des médiation quelconque, les galeries, etc., tout le monde, enfin une certaine élite de cadres, etc., se ravit de ces fameuses installations, entre guillemets. Bon, moi je trouve ça, bon, c'est un événement artistique qu'il faut prendre en compte, il y a sûrement des choses derrière qui expliquent tout ça, je l'ai jamais vu très très bien expliqué, mais enfin, je l'ai jamais vu très bien défini, c'est pour ça que je porte un certain mépris pour cette production. Mais je pense aussi que ça permet à des tas de petits rigolos de se dire artiste. Quoi. Moi, je suis assez sévère là-dessus. Et par rapport à ça, il y a, je pense encore, des gens qu'on ne connaît pas, mais des gens qui reprennent disons, un métier classique de la production picturale. On les connaît pas encore, mais ce sont des gens qui vont réapparaître. On en parle un tout petit peu. Il y a une... Je ne dis pas qu'il y a un retour vers le classicisme, mais en tous les cas, il y a un retour vers les techniques classiques, tu vois, et vers des valeurs, des critères beaucoup plus permanents. Mais on n'en entend pas encore trop parler, encore que, bon, j'ai pas de nom là en tête, mais c'est déjà visible dans Paris.